Bonsoir à tous et bienvenue sur Méta Radio, l'émission de Radio U, aléatoirement, un mercredi sur deux. Générique. Méta Radio, l'émission sur la radio, dans la radio, pour la radio, présentée par DJ Had. Welcome et merci pour ce générique Do It Yourself.
Bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde.
Que de progrès depuis le dernier générique. On sent que vous avez travaillé.
Ouais, je travaille dur, là, tous les jours, avec rigueur, avec discipline. C'est comme ça qu'on avance.
Nous avons aussi une invitée surprise dans la bulle de Radio U. Comment t'appelles-tu, jeune fille ?
Miette Pic.
D'accord. Donc tu vas participer à Méta Radio ?
Oui.
C'est la première fois que tu viens à Radio U ?
Oui.
Tu es contente ?
Oui.
Est-ce que le studio te plaît ?
Il est très grand.
Oui, c'est vrai. Il y a combien de micros, tu peux nous dire ? Tu peux dire nos auditorices ?
Il y en a...
Complet.
Ouais, il y en a beaucoup, donc il faut laisser le temps de compter.
1, 2, 3, 4. 4.
Et mon micro, il ne compte pas.
Ah oui, 5.
Et mon voisin ?
6.
Voilà, il y a 6 micros et c'est pas évident parce qu'il y a des micros cachés. On est dans... les locaux de Radio U et on vous souhaite la bienvenue. On vous a posé un lapin. C'était la semaine dernière, normalement c'était Méta Radio. Donc on va se rattraper en vous proposant deux mercredis de suite bien notre émission Méta Radio à 20h sur le 101.1 et en podcast sur le site Radio U. Comment allez-vous, DJ Had ?
Ça va. Je serais content d'être là déjà ce soir. Sur les antennes de Radio U. Très content d'avoir une nouvelle partenaire pour ce soir. Ça me fait très plaisir. Merci Miette d'être venue. Et très content d'être avec vous, DJ Jim.
Oui.
J'ai manqué.
Alors, si La Fontaine avait fait une fable de notre duo, trio ce soir, exceptionnellement. Il l'aurait peut-être appelé le pédagogue et le croque-mort, car nous nous sommes retrouvés ici, malgré nous, au début, mais nous avons fini par y prendre un certain plaisir, je crois. J'espère que c'est réciproque.
C'est réciproque, et j'espère aussi que c'est le cas pour les auditrices qui écoutent, et qui peuvent maintenant écouter les podcasts sur le site aussi.
Eh bien, non, c'est moi qui vous remercie pour ce travail de mise en onde, de mise en web.
Exactement.
Alors oui, le croque-mort et le pédagogue, car nous avons appris à nous connaître au-delà de la radio, au-delà de la musique. Nous avons beaucoup de passions communes, mais nous avons aussi parlé et nous parlons beaucoup de ce qui nous préoccupe, de nos travaux respectifs. Votre métier d'employé des pompes funèbres et moi de professeur de français en collège. Et puis, on a des chroniques, on a annoncé des chroniques, mais qui ont été un one shot.
Non, mais on a été rattrapé par l'actualité.
Ouais,
la dernière émission, vous aviez parlé de l'assassinat de Dominique Bernard. Et moi, j'avais parlé du conflit israélo-palestinien parce que moi, personnellement, en fait, ça m'a habité là des jours et des nuits, voilà. Et du coup, bah, il fallait qu'on parle de ce qui nous tenait à cœur, je pense. Ce qui ne veut pas dire que nos chroniques vont s'arrêter, au contraire.
Non.
Elles vont continuer.
Méta Radio, c'est un petit peu ce qui nous passe par la tête. Et évidemment, on se cale souvent à l'actualité. Et je crois que la guerre israélo-palestinienne va faire son retour dans cette émission. Et puis, il y aura de la musique, des annonces. Je vous propose de se retrouver après ce morceau de Sir Victor UFO. Magnifique funk, Edo funk, nigérien. C'est ce qui s'appelle une erreur du technicien. Je suis désolé parce que, en plus, j'adore ce morceau et je m'étais dit on va mettre un morceau joyeux, entraînant, avec un synthétiseur complètement extraterrestre de Sir Victor UFO, comme je vous ai dit, là, qui représente l'Edo Funk. L'Edo, c'est une province du Nigeria qui a donné énormément d'artistes qui ont créé comme ça une funk très roots, très africaine, très dansante et très répétitive aussi, très hypnotique. D'ailleurs, le morceau sur lequel on a ouvert l'émission, avec lequel on a fait la transition avec l'émission précédente, Transvinyl Express. C'était aussi de l'Edo Funk, mais c'était un autre groupe, c'était The Good Samaritans. Et puis là, je ne sais même pas où j'ai appuyé pour... comme dirait Macron, soyons fiers d'être des amateurs. Alors, bah oui, la guerre Israël-Palestine. Aujourd'hui, 4 jours de trêve ont été arrachés grâce aux mobilisations nationales, internationales, grâce aux pressions des peuples qui ont manifesté dans les rues. Ça a beaucoup compté pour que Joe Biden, revoit son soutien inconditionnel à l'armée israélienne et au massacre qui se déroulait depuis 15 jours, 3 semaines. Sous nos yeux, pas vraiment, parce que les journalistes sont interdits du territoire, mais il y a eu de plus en plus quand même de vidéos qui venaient de Palestine qui étaient insupportable à voir. Et DJ, vous nous avez apporté votre réflexion.
Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, ça m'a habité, là, ce conflit israélo-palestinien. Conflit qui a presque un siècle. Hein, maintenant, si on fait démarrer l'histoire d'Israël après la Première Guerre mondiale avec le mandat britannique qui a commencé là-bas et qui a commencé à créer, on va dire, les conditions pour que les colons juifs commencent à s'installer là-bas, on peut dire que c'est un siècle. Donc, un siècle de conflit, un siècle avec des guerres à répétition, ça commence à faire beaucoup. Donc, je me suis plongé en fait dans des lectures, dans des visionnages de documentaires, etc., de conférences là-dessus. Et j'avais fini la dernière fois en lisant l'article de Mona Shelley sur une idée qu'elle avançait sur, on peut dire, une espèce de connivence un peu perverse. Menée par Netanyahou et son gouvernement sur comment il a instrumentalisé un peu le Hamas, comment il s'en est servi dans sa politique comme prétexte pour, en fait, on va dire, continuer à la fois la colonisation, qui tous les jours se continue, et du coup l'oppression des Palestiniens et aussi, on va dire, des Arabes israéliens. J'avais avancé cette idée-là. Et pour faire la transition, je vais vous lire une déclaration de Netanyahou, donc qui est le Premier ministre actuel. Déclaration qu'il avait faite en mars 2019, devant son parti, devant les parlementaires de son parti, le Likoud. Voilà ce qu'il disait en mars 2019. « Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir notre politique de renforcement du Hamas » et du transfert d'argent au Hamas. Cela participe de notre stratégie, isoler les Palestiniens de Gaza de ceux de la Cisjordanie. Donc en fait, quand même, déjà il y a maintenant 4 ans, c'est assez clair en fait là ce qui se passe. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une théorie du complot qui fait que le Likoud, c'est-à-dire la droite israélienne, voire l'extrême droite, pour quand même, si on regarde l'histoire de Netanyahou et de sa politique, on est clairement à l'extrême droite, en fait. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une connivence cachée, secrète, entre le Hamas d'un côté et le Likoud. Je dis juste quelque chose d'assez banal, hein, qui a été fait par les politiciens depuis des siècles et des siècles. C'est qu'ils se servent souvent de leur ennemi objectif. Hein, ils sont ennemis, il n'y a pas de souci, hein, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Hein, ils sont complètement en opposition. Mais ils se servent de ça pour avancer leur pion et faire le politique, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Je vais continuer aujourd'hui, en fait, à parler du conflit israélo-palestinien avec un angle sur plutôt qu'est devenu Israël aujourd'hui, quel est le quotidien sur ce territoire. Et je vais m'appuyer sur ça, sur des extraits d'une interview donnée par un type qui s'appelle Sylvain Sipel, qui est un journaliste, qui a été journaliste au Monde, puis après à d'autres. Et aujourd'hui, il est journaliste à Orient 21, que je recommande comme site pour s'informer sur ce qui se passe dans cette partie de la planète. Allez voir le site d'Orient 21. Il y a des analyses de fond, il y a des vidéos, voilà. Sylvain Sipel a écrit un livre qui s'appelle « L'État d'Israël contre les Juifs ». C'est sorti en 2020. C'est un historien de formation, c'est un sociologue de formation. Dans ce livre, il fait le récit d'une longue dérive de l'État d'Israël vers un régime ethniciste, raciste, belliqueux, faisant un usage systématique et disproportionné de la violence à l'encontre des Palestiniens. Dans ce livre, il va nous montrer comment s'est mis en place progressivement ce qui ressemble à un régime d'apartheid. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, historien, sociologue, qui connaît très très bien ce coin de la planète, qui a fait des voyages depuis 40 ans, qui dit ça. Un régime illibéral, vous allez voir, c'est très intéressant, qui passe des alliances avec des régimes autoritaires, avec la Hongrie d'Orban, comment le décrire ce régime, je sais pas, c'est très difficile de décrire, néo-fasciste de Modi en Inde, où il y a un racisme anti-musulman hallucinant, avec aussi des régimes comme la Turquie, c'est très très curieux ce qui se passe, avec surtout des alliances idéologiques avec Trump, avec Bolsonaro. Tout ça est très détaillé dans le livre de Sylvain Sipel, hein, je n'invente rien. C'est la politique tenue par Netanyahou, le Likoud et ses alliés d'extrême droite. Voilà, Sylvain Sipel, sa thèse, c'est que cette dérive, cette évolution de l'État d'Israël menace les Israéliens eux-mêmes et donc les Juifs du monde entier. Parce que Israël, on va revenir là-dessus, se proclame, l'État des Juifs, l'État juif de tous les Juifs. On va écouter un premier extrait de l'interview de Sylvain Sipel à Mediapart, donc interview, je rappelle, qui date de 2020. Et vous allez voir, premier extrait, je reprendrai la parole après, on reviendra. Tout simplement, ça nous parle de c'est quoi la réalité aujourd'hui de ce qu'on vit en Israël, la réalité de l'occupation. Voilà.
La question palestinienne, c'est pas un drame de type syrien, c'est pas un drame de type yéménite, comme on a vu, c'est pas des massacres massifs. La réalité, c'est une occupation qui a pour objectif de mettre à genoux les Palestiniens et, si possible, d'en faire partir le plus possible. Donc, c'est une occupation qui vise l'acquisition de la terre en priorité, de l'eau et de la propriété de manière générale, qui suit une ligne déterminée depuis fort longtemps, qui consiste à, pour capter la terre, à regrouper les Palestiniens autour des grandes villes, à créer ce que certains Israéliens d'extrême droite, par humour, appellent les Émirats unis palestiniens, c'est-à-dire des petits territoires déconnectés les uns des autres.
La cantonisation de
la société palestinienne de Cisjordanie. Et tout ça dans une vision qui est qu'un jour, tout nous appartiendra. Et ce qu'il adviendra des Palestiniens n'est pas clair. Mais ce qui est clair, c'est qu'au mieux, ils resteront chez eux sans droit et au pire, ils ne resteront pas.
Voilà, assez clair, hein, les propos de Sylvain Sipel. Voilà, c'est clair. Vision de l'État aujourd'hui d'Israël. Un jour, tout nous appartiendra. Il y avait Miette qui voulait poser une question. Alors, Vas-y.
C'est quoi le Hamas?
Ah, est-ce que tu vas pouvoir expliquer?
Question complexe. Vite fait, on va donner une première réponse. On pourra y revenir à d'autres émissions.
Alors, Miette, normalement, la question en radio, dans toutes les radios, c'est est-ce que vous condamnez le Hamas? Mais on peut commencer par qu'est-ce que le Hamas, effectivement?
Le Hamas, en fait, c'est un acronyme, c'est un mot arabe qui veut dire mouvement de la résistance palestinienne. Je crois que c'est un truc comme ça à vérifier, mais ça veut dire mouvement de résistance. En fait, c'est un parti, une organisation qui s'est créée il y a maintenant une vingtaine d'années, facilement. À la base, ça vient d'un autre groupe qui s'appelle les Frères musulmans. En fait, c'est des musulmans, donc des croyants en l'islam, qui se sont organisés, qui se sont montés. Et actuellement, c'est un groupe qui revendique la terre de Palestine comme étant la terre du prophète Mahomet, c'est-à-dire du prophète en quel il croit. Ils veulent reconquérir cette partie de la terre pour vivre, pour s'installer. Et quand on lit les textes fondateurs du Hamas, ils veulent quand même instaurer un régime théocratique avec une charia très dure. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'histoire du Hamas est beaucoup plus complexe, avec des alliances, avec des gens à l'intérieur qui pensent différemment. Mais concrètement, aujourd'hui, c'est des gens qui veulent libérer la Palestine de l'occupation israélienne, hein, c'est clair. Mais qui sont, on va dire, dans une vision assez fondamentaliste, c'est-à-dire très extrémiste. Voilà.
L'islam, ouais.
Ils utilisent la cause palestinienne à des fins qui n'est pas ceux des Palestiniens et des Palestiniennes. Bon, je ne sais pas, on pourra y revenir là-dessus. Hein. Pour revenir sur Sylvain Sipel, on va écouter un deuxième extrait où, en fait, il revient sur l'idée. Vous allez voir que la violence envers les Palestiniens, les Palestiniennes et les Arabes qui vivent en Israël, la violence, elle est quotidienne. Elle est quotidienne. Vous allez voir à quel point, en fait, elle s'est banalisée. Elle fait partie... Voilà, du cours normal du traitement fait par la politique israélienne. On écoute le deuxième extrait.
Mais ce que vous racontez, c'est une banalité d'une violence extrême. C'est-à-dire, c'est tous les jours des morts, c'est des humiliations continues dans les passages
c'est
et aux
pas
checkpoints.
C'est tous les jours des milliers de morts.
Arrestations.
C'est un tous les jours, deux tous les jours. Ce sont des arrestations tous les jours. C'est la manière dont on entraîne les soldats israéliens, les jeunes conscrits, à participer à des opérations. Ça rappelle beaucoup la guerre d'Algérie. On rentre chez les gens en pleine nuit, à 3h du matin, on réveille tout le monde, on met tout le monde dans une pièce, on saccage, etc. Et puis on s'en va, il n'y a aucune explication. Des fois, on prend quelqu'un, des fois, on ne prend pas. On ne sait pas si la personne est arrêtée, si elle est libérée le lendemain ou elle n'est pas libérée. Et donc, on fait vivre en permanence c'est une vie de contraintes permanent. Et puis, il y a les contraintes institutionnelles, il y a les contraintes physiques. C'est-à-dire que le paysan qui a son champ, qui est en face de sa maison, mais qui doit faire tous les jours 30 km pour contourner le mur, et qui, au bout d'un moment, n'y va plus parce que c'est trop compliqué, parce qu'il faut passer un checkpoint, parce qu'on perd des heures, parce que, etc. Et c'est fait exprès. Je raconte, par exemple, un cas à un checkpoint qui est absolument épouvantable, où c'était un article paru dans Haaretz d'un universitaire, je crois qu'il était australien, qui racontait qu'il a été voir des amis à Bethléem et il veut rentrer le lendemain matin pour revenir à Jérusalem. Bethléem, c'est à 10 km, hein, 12 km. Et donc, il doit passer par le checkpoint. Et donc, il y a un gros checkpoint, il y a quatre passages. Il arrive, les gens attendent, aucun n'est ouvert. Puis, à un moment, il y en a un qui s'ouvre. Alors, tout le monde court à celui qui est ouvert. Ça dure 5 minutes, puis ça s'arrête. Et à nouveau, il y a un ouvert. Et puis, ensuite, il y a l'autre qui s'ouvre. Et on ne sait pas lequel va s'ouvrir. On ne comprend pas la cohérence. Il n'y en a pas. La seule cohérence et cette incohérence, c'est de rendre dingue.
Les mots sont forts, hein, et violence extrême tous les jours, absurdité entretenue de cette oppression. Et encore une fois, je répète, c'est quelqu'un qui connaît très très bien Israël et son histoire, qui allait souvent là-bas, qui le dit.
Humiliation quotidienne, usage disproportionné de la force.
Voilà. Donc tout ça, pourquoi ? Pourquoi on est en train de dire ça là ? C'est pour vous dire, quand des dirigeants politiques aujourd'hui en France, Macron, il change d'avis comme de chemise, il a aucune vision en fait, ce type-là, comme beaucoup de personnel de la classe politique aujourd'hui, navigue à vue en fonction des sondages, je pense, c'est tout. Mais bref, quand même, il a fait des déclarations d'amour à Israël, comme François Hollande avant et comme aujourd'hui, là, quasiment toute la classe politique. Voilà, quand on dit soutien inconditionnel, en fait, dans la réalité, on soutient ça, hein, ce qu'on a entendu là.
Le vent commence à tourner ces derniers jours.
On verra bien. On verra bien. Moi, personnellement, c'est une opinion personnelle. Je sais pas, je suis pessimiste à la fois de la classe politique en France. Je ne vois pas tout d'un coup quelque chose qui fait qu'ils vont changer de grille, changer d'analyse. Je ne vois pas pourquoi, quoi. Par magie, peut-être qu'ils peuvent devenir intelligents, hein, ces gens-là, mais je ne crois pas que les choses se passent comme ça, magiquement. Mais c'est bon, voilà. Alors, on va passer à un autre extrait là, d'interview de Sylvain Sifbel, où il va parler de quelque chose d'assez très très important qui s'est passé en juillet 2018. C'est l'adoption d'une loi par la Knesset, c'est-à-dire le Parlement israélien. Une loi sur qu'est-ce qui constitue l'État d'Israël. Et vous allez voir, en juillet 2018, la Knesset a voté une loi qui grave comme étant le cœur et l'essence même d'Israël. C'est l'État des Juifs. C'est un État juif pour les Juifs, avec une espèce de... Alors, je vous passe les détails, il en parlera mieux que moi, Sylvain Sifbel, dans l'extrait qu'on va écouter. Mais en fait, ça institue une double citoyenneté, une citoyenneté de plein droit pour les Juifs israéliens et une sous-citoyenneté pour tous les autres. Donc, est passé dans la loi un régime ethniciste. Et on écoute l'extrait.
Alors, ce qui vous décide à écrire ce livre, vous l'expliquez dans la préface, c'est l'adoption à l'été 2018, en juillet 2018, d'une loi qui définit Israël comme l'État-nation du peuple juif. En quoi cette loi est un basculement d'Israël et installe Israël comme un intellectuel américain le qualifiait de retour au tribalisme, comme un État ethniciste et raciste.
Jusqu'ici, il n'y avait pas de définition de l'État en Israël. L'État, les deux seules définitions qui existaient, elles étaient dans ce qu'on appelle les lois fondamentales. Il n'y a pas de constitution en Israël, mais il y a ce qu'on appelle des lois fondamentales. Il y en avait 5 au départ, il y en a, je crois, 12 actuellement. Et elles ont valeur constitutionnelle. Dans ces lois, il était dit qu'Israël était un État juif et démocratique. Alors, on ne définissait pas en quoi il était juif, mais il était démocratique, pour dire les choses simplement, un homme, une voix. Bon. Cette loi vient mettre fin à l'égalité entre les citoyens. Elle le dit, non seulement la loi le dit, mais Netanyahou et ses ministres n'ont cessé de le répéter. L'État n'est pas l'État de tous ses citoyens, il est l'État des citoyens juifs. Alors, c'est défini par le fait que seuls eux ont le droit à l'autodétermination. Donc, qui n'est pas juif ne l'a pas. Mais ça se manifeste dans de multiples façons. Alors, par exemple, il devait y avoir dans la loi un alinéa qui disait qu'une communauté a le droit de refuser quelqu'un de s'installer dans sa communauté. Ça veut dire que un quartier juif, un village juif, a le droit de refuser qu'un arabe vienne habiter chez eux. C'est ça que ça signifie. À la dernière seconde, ça a sauté, vraiment le jour du vote. Ça a sauté parce que la Cour suprême a fait savoir que ce n'était pas possible et qu'ils avaient déjà fixé des normes là-dessus et qu'il ne fallait pas revenir et que ça ferait... Donc, ils l'ont retiré. Mais dans la réalité, c'est ça qui se passe. Et cette loi vient légitimer ça. Alors, Gideon Levy,
qui est un journaliste... Elle installe la discrimination entre
la discrimination
les Arabes israéliens.
Entre quiconque n'est pas juif, ça veut dire à 99% des Arabes ou 95% des Arabes. Et les Juifs. Les Juifs ont des droits que les autres n'ont pas.
Voilà, les propos sont clairs. Donc, encore une fois, voilà ce que défendent, par exemple, Macron et aussi la droite française, mais aussi l'Union européenne, Biden, etc. Même si, OK, ça peut changer, ils mettent de l'eau dans leur vin, comme on dit, mais je ne sais pas. Sylvain Sipel... On parle d'une loi qui a été votée en 2018. Hein. Mmh. Donc quand même, je ne sais pas, on est au courant depuis longtemps qu'il y a une dérive raciste qui a installé une ségrégation légale, en fait. Mmh. Et là, c'est clair de chez clair. On écoute un autre extrait et on va entendre la différence, l'évolution qu'il y a eu dans ce pays d'Israël. Vous allez voir aujourd'hui, en fait, le racisme est assumé. Avant, on était plutôt dans un déni. Là, c'est clairement assumé.
Ben Gurion, après 1948, a eu cette phrase qui est restée célèbre. « Nous n'avons jamais expulsé un seul arabe, ils sont partis volontairement. » Bon. Alors, en vérité, la plupart des juifs israéliens savaient bien que peut-être que ce n'était pas aussi rose que ça, qu'il y a eu ici ou là des bavures, mais dans l'ensemble, la position était que, oui, Nous étions le bon camp. Et nous avons, dans des guerres, on casse des œufs. Mais enfin, rien de dramatique n'a eu lieu et nous étions le bon camp. Bon. Aujourd'hui, je raconte l'histoire d'un film, je raconte une anecdote où dans un film, ce sont des étudiants en architecture qui vont dans un quartier de Jaffa. Ils sont là, ils se baladent, etc. Et celui qui leur sert de guide leur dit « Bon, ben là, habitaient des Juifs marocains et d'origine essentiellement marocaine et un peu d'autres. Et on a voulu faire un grand quartier commercial. On les a foutus dehors et on les a mis ailleurs dans la ville. » Et à ce moment-là, le professeur qui accompagne les étudiants dit « Oui, mais vous oubliez de dire... » Ça s'est passé dans les années 60, 70. « Vous oubliez de dire que 20 ans avant, on a viré les Palestiniens. »
C'était un grand quartier palestinien,
oui. Alors le type dit « Ben oui, oui, sûrement, mais enfin bon, pourquoi voulez-vous que je parle de ça ?» Alors le type dit « Ben parce que c'est un fait historique. » Et le type répond en anglais « fuck history ». J'emmerde l'histoire. Et il dit « le plus fort a gagné, c'était nous les plus forts, et c'était tant mieux ». Et surtout, c'est ça qu'on entend en Israël aujourd'hui. On ne nie pas. Des générations d'Israéliens ont été éduqués dans l'idée « nous étions le bon camp, on n'a rien fait de mal en 1948-49 ». Aujourd'hui, on dit « la grande faute de Ben-Gurion » a été de ne pas tous les expulser. Pourquoi il en a gardé ? Il ne fallait pas les garder. Il fallait virer tout le monde. Et d'ailleurs, le jour où on pourra le faire, il ne faudra pas se priver, parce que la seule option, c'est de vivre dans l'entre-soi, entre nous, sans Arabes.
Encore une fois, c'est clair. Hein. Alors, je vais finir pour aujourd'hui sur cette question-là. J'y reviendrai sûrement, mais avec du recul. Parce que ça demande du recul. C'est une histoire très très longue. On a évoqué David Ben-Gourion. Il évoque David Ben-Gourion, qui fut le premier ministre du pays d'Israël, de l'État d'Israël. Je rappelle, l'État d'Israël a été créé après la Deuxième Guerre et est devenu indépendant en 1948. David Ben-Gourion était un sioniste laïque. Personnage très important, mais en fait, et c'est ça qui est fou dans cette histoire d'Israël, c'est que laïque et ne peut pas se séparer du côté religieux. Voilà, il y a un mélange qui s'est fait entre, on va dire, des convictions de gauche, des convictions laïques et la religion juive. Et moi, je me suis plongé dans des lectures et des trucs, et c'est passionnant à la fois et complètement hallucinant que ce mélange qu'il y a eu comment dire comment des penseurs qui ont amené à la création de l'État d'Israël ont recréé une espèce de mythe issu de la Bible. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je vais finir par cette citation de David Ben-Gourion, qui du début, peu de temps après la création de l'État d'Israël, qui disait ça. « La terre d'Israël est le lieu où naquit le peuple juif. » Je fais un petit commentaire. Premier mythe. Mmh. Premier mythe. C'est faux. C'est un mythe. C'est une référence à la Bible. Mmh. Et ça prend la Bible comme si c'était un document historique. Mmh. Ben non. Déjà, la Bible est un document, on peut dire, de propagande, en fait, déjà. Mmh. Donc, ne prenons pas au pied de la lettre. Premier mensonge, mais malgré lui, je pense qu'il voulait pas mentir quand il disait ça. Mais c'est un gros mensonge. Et il y a des historiens aujourd'hui qui l'affirment. Et je vous conseille de lire les travaux de Shlomo Sand, israélien, juif, qui a fait un énorme travail. Je vous conseille ses écrits. Il a écrit un livre « Comment le peuple juif a été inventé ». Et en fait, toute l'historiographie moderne en arrive à cette conclusion irréfutable. Le peuple juif est un mythe. Ça n'existe pas. Bien sûr, dit comme ça, c'est très compliqué. On y reviendra. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne sont pas juifs et qui ne s'identifient pas à faire partie d'un peuple juif. C'est hors de question. Ils ont le droit, il n'y a aucun problème. Mais je dis juste que la notion même de peuple, la notion même de juif, il faut les interroger. Et la notion de peuple juif aussi. On a le droit d'interroger qu'est-ce que ça signifie. Et en fait, dire que la terre d'Israël est le lieu où naquit le peuple juif ne veut rien dire. Voilà ce que disait David Ben-Gourion. C'est là que se forma à Israël son caractère spirituel, religieux et national. Parler de nation du temps de la Bible, ça ne veut rien dire. Je veux dire, les nations n'existent pas. C'est une recréation 2000 ans après de l'histoire. C'est là qu'il réalisa son indépendance, créa une culture d'une portée à la fois nationale et universelle et fit don de la Bible éternelle au monde entier. Et vous voyez ce mélange. Ce mélange de laïcité, de notions modernes, nations, et de notions religieuses, et on parle de Bible éternelle. Et c'est ça qui est passionnant dans cette histoire. David Ben-Gourion était un dirigeant politique très très intelligent et d'une grande moralité, il n'y a aucun problème. Mais en fait, dès le début, il y a une espèce de mélange entre laïcité, religion, et c'est l'histoire d'Israël qui est comme ça. Qui devient une espèce de truc qui entraîne toute l'humanité et qui nous dépasse. Et on en reparlera une autre fois.
Et j'aimerais bien du coup clore ce chapitre sur la guerre Israël-Palestine dans Meta Radio en lisant un poème de Samer Abou Awash, poète palestinien. Un poème de résignation, de désespoir. Alors, il y a peut-être une petite lueur aujourd'hui d'espoir avec cette trêve de 4 jours et peut-être des négociations, de la diplomatie qui se mettrait enfin en marche. Je vous lis le poème. Il semble bien, de toute façon, que c'était un amour à sens unique, disent nos vieux, lassés de l'idée de la terre. Notre poète se tient à l'horizon lointain, écrit « Délivrez-nous de cet amour cruel !» Puis il murmure, pour s'excuser, d'un juvénile optimisme passager. Rien sur cette terre en réalité ne mérite de vivre. Peu nous importe désormais que quiconque nous aime. Nous sommes fatigués des paroles dites et du non-dit, des mains tendues qui ne parviennent pas et des yeux ouverts qui ne voient pas. Nous sommes fatigués de nous-mêmes et cette nuit interminable, et de l'attachement obstiné de nos mères à ce qui reste de nous, d'un rocher que nous continuons de porter, éternelle malédiction, de précipice en précipice, de trépas en trépas, et nous n'arrivons toujours pas. Qu'importe désormais que quiconque nous aime, que quiconque nous accompagne dans la procession de notre enterrement, voilà que nous marchons en silence vers une dernière errance. Nous nous tenons tous par la main et nous avançons solitaires dans le désert du monde. À un moment, l'un de nos enfants se retourne, jette un dernier regard sur les décombres et dit en versant une larme unique : « Peu nous importe, désormais, que quiconque nous aime. »
Chiffon imbibé d'essence, un enfant meurt en silence sur le trottoir de Bogota. On ne s'arrête pas, déchiquetés aux champs de mine, décimés aux premières lignes, pour les enfants de la guerre, pour les idées de leur père. Balle à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et gravataires, se partagent l'univers. Or les enfants de Bhopal, d'industrie occidentale, partis dans les eaux du Gange, les avocats s'arrangent. Or les enfants de la haine, près de nous, plus lointaine, les enfants de la peur, chevrotinent dans le cœur. Balle à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et militaires, se partagent l'univers. Or les enfants du Sahel, on accuse le soleil. Les enfants de Céveso, hors les arbres, les oiseaux, hors les enfants de la route, dernier week-end du mois d'août, papa picolait sans doute, deux ou trois verres, quelques gouttes. Balle à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et tortionnaires, se partage l'univers. Mort l'enfant qui vivait en moi, qui voyait en ce monde-là un jardin, une rivière et des hommes plutôt frères. Le jardin est une jungle, les hommes sont devenus dingues, la rivière charrie des larmes, un jour l'enfant prend une arme. Balle sur l'ambassade, attentat, grenade, hécatombe au ministère, sous les gravats, les grabataires.
Renaud, mort les enfants. C'est à l'époque où ils savaient chanter. Car les dernières tournées sont assez naufrageuses. Nous avons la chance d'avoir un enfant, une enfant dans les studios. et pleine de vie, pleine de malice, qui s'appelle Miette et qui a envie de prendre le micro.
En fait, moi, je voudrais bien montrer une chanson que ma copine Elisabeth m'a montrée avant. Ça s'appelle Days of the Days. C'est les jours de la semaine en anglais.
C'est une chanson que t'aimes beaucoup, donc.
Oui, à chaque fois que je l'écoute, ça me met de bonne humeur.
Ah, très bien, tu vas nous faire découvrir ça. Et alors, tu sais quel artiste l'a écrite ?
Rémi Lelay, je crois, et il y a des enfants avec lui.
Ah, yes.
Chouette. On y va. Il y a une petite, il y a une rythmique raga là-dedans.
Ouais, c'est bien cool, hein.
Ah ouais, ouais. Ben, c'est sûr que ça donne envie de danser. Hein.
Merci beaucoup, Miette, hein, ouais. Pour cette découverte. Tu reviens quand tu veux à la radio, hein. Tu sais, t'es la bienvenue. Tu es d'accord?
Oui.
Tu aimes bien Meta Radio?
Oui.
Très bien. J'ai une bonne nouvelle. Dans tout ce marasme. Alors, c'est une nouvelle dans l'actualité locale. Figurez-vous que samedi prochain, l'association La Marée, dans les Monts d'Arrée, La Marée, Monts d'Arrée, ok, fait son inauguration. C'est donc le samedi 25 novembre. L'association La Marée, c'est une association qui a deux volets. C'est une bibliothèque militante. C'est aussi un accompagnement de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Je vous dis le programme. Écoutez bien, DJ Ad, écoutez bien, Miette. À 10h30, le samedi, à Plounéourménez, yoga, mais attention, on n'est pas invité, c'est en non-mixité. À 14h, on inaugure la bibliothèque de La Marée, Rest Loas, c'est un lieu dit de Plounéourménez. En Plounéourménez, en fait, vous sortez à Morlaix. Après, vous allez à Pleyber-Christ et vous êtes à Plounéourménez, à l'orée des Monts d'Arrée. Ensuite, 15h30, 17h, atelier d'écriture. 17h30, 18h45. Ça se passera au stall de Plounéourménez, une lecture d'une pièce de théâtre qui s'intitule Concerto pour salope, excuse-moi, Miette, en viol mineur. Et tout ça se termine en musique, en danse et en chanson avec Nozil B, rap de chambre, rap de timide, Az Musaki, pas trop de style, c'est que du flow. Nadjapa, c'est du folk primal avec un langage inventé. Et tout ça sera clos par DJ Jim International.
Oh yeah.
Yes. Et il y aura la cantine solidaire des Monts d'Arrée. Ben voilà, c'est un projet qui me tient à cœur parce qu'évidemment, je fais partie de cette association. Je suis le DJ officiel de la Marée.
Bon, figurez-vous. Ce week-end.
Oui, samedi prochain, Pounour Ménez. Alors, la fête le soir, c'est à Bottmer, au Petit Bonheur. Vous avez 4 minutes, DJ Had. Je vous les offre.
Oh, merci.
N'oubliez pas que vous avez nos petits génériques de fin à faire aussi.
Tu les offres surtout à Mahmoud Darwish.
Très bien.
Hein, ce poète palestinien dont j'avais lu un poème la dernière fois. Poète énorme. Je vais vous lire deux poèmes qui vont se suivre. C'est des poèmes qu'il a écrits en 2002, alors qu'il était reclus à Ramallah, en Cisjordanie, suite à une offensive de l'armée israélienne.
Vous avez 3 minutes, DJ. Je ne sais pas si c'est raisonnable de viser 2 poèmes. On a une émission après.
Ça sera court, ça va tenir.
C'est un haïku. 2 haïkus, ça ne fait que 6 vers. Bon, pardon, je me tais.
Premier poème de Mahmoud Darwish. À un assassin. Si tu avais contemplé le visage de la victime, réfléchi, tu te serais souvenu de ta mère dans la chambre à gaz. Tu te serais délivré de la sagesse du fusil et tu aurais changé d'avis. Ce n'est pas ainsi que l'on recouvre son identité.
Deuxième poème.
Lui ou moi ? Ainsi débute la guerre, mais elle s'achève par une rencontre embarrassante. Lui et moi.
Bien. Est-ce que vous nous faites notre petit générique de fin, hein, DJ Had ? Merci en tout cas pour votre présence, pour vos interventions, pour vos éclairages. Miette, merci beaucoup de ta présence. J'espère que tu reviendras. Ça t'a plu de participer à cette émission ?
Oui.
Eh bien, je te dis à la prochaine fois dans Méta Radio. Générique signé DJ Had. À mercredi prochain. Mercredi à 20h, on se retrouve sur le 101.1. Ciao, ciao. Thank you.